Bonjour, c'est Jack Black. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Le héros dont il va être question aujourd'hui m'accompagne dans la vie depuis de nombreuses années. En fait, pour être tout à fait précis, depuis mon 10e anniversaire, puisque c'est le premier tome de ses aventures que je reçus en cadeau avec un chouette vélo demi-course vert bouteille qui me donne à longtemps l'illusion que je pourrais me lancer sur les traces de Jacques Anquetil, ce qui, on l'a vu récemment, n'a pas porté chance au malheureux Poupou, même si Anquetil, une fois de plus, l'avait précédé comme toujours sur la ligne d'arrivée finale. Oui, il avait pour titre Fort Navajo, le premier Blueberry, hein, pas le vélo. Et depuis cette époque-là, j'ai toujours suivi fidèlement la trace de ses aventures. Blueberry a été une influence majeure. J'aime son caractère tête brûlée, impertinent, râleur et super décontracté à la fois devant l'existence et l'adversité. J'aime sa dégaine et sa nonchalance qui a servi de modèle à bon nombre de lecteurs de ma génération, poussant certains, ils se reconnaîtront, un en particulier, à adopter le look cow-boy urbain en toutes circonstances, quitte à troquer leur cheval imaginaire, comme il est des amis, pour le métropolitain parisien et son fonctionnement aléatoire. Bref, Blueberry est pour moi à la BD ce que Springsteen est à la musique, juste pour vous dire l'enjeu de l'émission qui arrive. Christophe Blain est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Christophe Blain.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Vous validez ma comparaison, Poupou, Blueberry ?
Poupou, Blueberry, ouais, Springsteen, Blueberry, ça m'a beaucoup impressionné. Mieux, oui. Ça m'a beaucoup impressionné.
C'est tout à fait sincère.
Je vais prendre des titres de Springsteen.
À mes côtés, celle qui est venue avec son cheval imaginaire à cause des grèves, Charline Rouille-Vingard.
Excusez-moi, oui. Qui est ce Springsteen dont vous parlez
Bruce Springsteen, je vous raconterai. Ce sera l'objet d'une autre émission.
Bonjour.
Au menu également de Pop Pop Pop, lui. James Elegance, le seul français à avoir enregistré au mythique Ranch de Luna, le studio dans lequel sont passés les Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Nick Cave et autres, Iggy Pop, il sera avec nous tout à l'heure et en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant ça, Christophe Blain, ici, il existe une question classique de l'émission, aussi classique qu'un concert d'Iggy Pop dans lequel il sort sa bistouquette, et cette question c'est... Non, c'est le mauvais son ça. Cette question c'est... Christophe Blain, pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses christophisées, blénisantes et même blueberryteuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de Johann Sfar, tiens, avec qui vous adaptez ce nouveau blueberry.
C'est Gainsbourg qui disait ça, que les arts mineurs ne nécessitent pas d'initiation. Je crois que ce qui est pop, c'est ce dans quoi on peut plonger sans avoir reçu d'éducation ou d'initiation. Et l'œuvre va vous initier elle-même.
Bien, et pour vous Christophe Blain ?
Eh bien, pour moi, la culture pop, c'est la culture d'un monde qui est en expansion perpétuelle, hein, qui grossit jusqu'à ce qu'il fasse pop.
Bien. Et il est sur le point de faire pop ?
Malheureusement, oui. Oui.
Ça vous désole ou ça vous réjouit ?
Ça me désole. Hein. Je ne suis pas collapsologue, je suis popologue, mais ça me désole.
En tous les cas, vous êtes notre premier popologue, et ça, nous nous en réjouissons. Bien, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de Baxter Dury qui signe son grand retour avec Slumlord.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up.
Taps always dripping, sleeping in the daylight, leaning out of windows, some way, just don't say it. Sleep as angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Retour de Baxter Dury, j'ai bien connu son papa, avec Slumlord avant son 7e album The Night Chancers qui sortira en mars prochain. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un homme qui aime dessiner à côté d'un Colt. Mais de qui s'agit-il? Indice, ce n'est pas Alexandre Benalla, car il ne sait pas dessiner. Mais alors, qui est-ce? Réponse avec son pop-portrait. Alors oui, son pop-portrait, ben, c'est son portrait, mais... Et il est signé Charline Arom.
Vous voulez chanter aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un invité hyper fort quand il s'agit de s'attaquer aux créatures mythologiques. Citons d'abord celle de Donjon Potrominé, son Hyacinthe de Cavalère, jeune oiseau issu de la vieille noblesse, ou encore l'univers pirate auquel se confronte le peintre Isaac dans une BD judicieusement nommée Isaac le pirate. Mythologie toujours, et grec de surcroît avec Socrate le demi-chien, mythologie du Grand Ouest avec les trois cow-boys hors la loi de Gus, mythologie effrayante et animalière avec King Kong dont il était venu nous parler lors de sa précédente visite ici, mais il a aussi croqué des créatures mythologiques bien plus effrayantes encore avec Quai d'Orsay, chroniques diplomatiques qui lui ont valu d'être multiprimées, notamment par un Fauve d'Or à Angoulême, mythologie gargantuesque en dessinant en cuisine avec Alain Passard. Il était donc l'homme de la situation pour reprendre la mythologie de l'homme créée par Jean Giraud et Jean-Michel Charlier.
Merci Charline. Christophe Blin, vous dessinez vraiment toujours avec un à côté de vous?
Oui, oui, oui. Oui, je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais venu ici, pardon de faire référence à ça, mais je prends modèle sur Paul Schrader.
Ah, qui avait toujours un Colt à portée de la
main. Et qui a écrit, c'est la légende des célèbres, il a écrit le scénario de Taxi Driver avec une arme chargée sur la table. Oui.
Et ce Colt-là à côté de vous, c'est parce que vous êtes content de me voir?
Mais oui, c'est pas un signe de... C'est quand je suis content, j'ai un Colt avec moi.
Je vois. Christophe Blin. Oh! Ce tumbleweed qui traverse en ce moment le studio 611 de la Maison de la Radio me laisse penser que c'est le moment d'entrer dans le saloon de la pop culture, car c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Christophe Blin, pour le livre, vous avez choisi... L'école des filles ou la philosophie des dames. C'est un livre érotique écrit par un auteur inconnu, paru pour la première fois à Paris en 1655. Charline, vous avez été une fille.
Autrefois,
vous
oui.
êtes une dame. Rien de ce qui touche à l'érotisme ne vous laisse tout à fait indifférente. Racontez-nous.
Et les vrais, Antoine. Robinet, le fils d'un marchand, est amoureux d'une jeune fille du nom de Fanchon. Oui. Mais il ne peut se rapprocher d'elle du fait de sa naïveté. Il convainc alors Suzanne, sa cousine plus âgée, d'expliquer à Fanchon ses sentiments et d'éveiller aussi son désir.
Bon, ça va pour l'ambiance pornochique, là, merci en régie. Christophe, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Ah, vous êtes dur. Hein. La dernière fois, c'est vous qui avez lu un extrait, vous lisez beaucoup mieux que moi.
Ah ben, oui. Oui, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de faire ce genre de... Alors, je dois lire ce que...
Ce qui est écrit devant vous, je
l'ai pas répété. Et puis je suis un peu ému. Belle et curieuse demoiselle, voici l'école de votre sagesse et le recueil des principales choses que vous devez savoir pour contenter vos maris quand vous en aurez. C'est le secret infaillible pour vous faire aimer des hommes quand vous ne seriez pas belle et le moyen aisé de couler en douceur et en plaisir tout le temps de votre jeunesse.
Bien. Pourquoi choisir ce livre considéré comme le premier roman sur le libertinage et le premier roman érotique de la littérature française, Christophe?
Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous choisissiez cet extrait qui est...
Un extrait soft.
Oui, mais même soft, il est très... C'est une excellente introduction. En fait, ce qui est très très drôle dans ce livre, il y a deux choses. Il y a d'abord la langue. Je veux dire, la façon dont c'est écrit. Hein.
Oui, j'ai compris.
Mais ça parle de, enfin, de, voilà. Et la façon dont c'est écrit, c'est du XVIIIe siècle, et c'est à la fois, c'est une écriture érotique, enfin, qui parle d'érotisme, mais en même temps, c'est d'une drôlerie et d'une élégance rare. J'adore les textes érotiques du XVIIIe siècle. Je les avais déjà utilisés dans un bouquin lu par Barbara Carlotti, qui a une voix à rendre complètement dingue. Et je lui ai fait lire des textes porno du XVIIIe. C'était une espèce de perversion. Et, dans ce livre, en fait, ce qui est très très drôle, c'est que il y a le personnage de Fanchon, comme vous l'avez dit, qui est une naïve et qui va se renseigner sur la manière de procéder, qui apprend la sexualité avec sa cousine ou sa tante, je ne sais plus. Et c'est très drôle parce qu'elle pose des questions qui sont exagérément naïves. Et l'autre lui explique par son parent lui explique par le menu, voilà. Et elle se lance dans l'expérience et il y a ses retours d'expérience. Donc il y a un mélange de naïveté. C'est un livre qui est très 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 drôle, qui est assez excitant, mais qui est excitant et très 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 drôle et très bien écrit.
Je vais m'y plonger dès ce soir.
Oui.
Apparemment, c'est le seul livre qui ne vous tombe pas des mains.
J'allais faire une blague. On va pas faire de blague.
Christophe Blin, passons à votre film culte. Et ce film, c'est Le Voleur de Louis Malle, sorti en 1967. Charline, je sais bien que vous êtes une femme, comme vous nous l'avez encore rappelé il y a quelques instants, mais dites-nous deux mots de Louis Malle.
Oui, bien. Georges Randall vient de finir ses études et pense pouvoir alors épouser Charlotte, sauf qu'elle a été promise à quelqu'un d'autre par son père. Rendu fou par cette nouvelle, Georges se venge en dérobant les bijoux lors de la soirée de fiançailles.
Je n'ai jamais pensé bassement.
Vous n'êtes pas un bourgeois, mais un voleur. Un être à part, complètement à part. Le luxe. Et comme tel, vous resterez incompris des médiocres. Vous êtes leur face interdite. Que voulez-vous? Eux aussi cherchent une certitude. Ils s'accrochent aux apparences. Vous, vous traversez les murs.
Extrait de Le Voleur de Louis Malle. Pourquoi? C'est vous qui avez choisi l'extrait, Christophe. Pourquoi cet extrait-là en particulier?
Je peux donner la réplique suivante. Enfin, une des répliques est juste après.
Allez-y.
Dit éviter l'assassinat.
Il vaut mieux.
Éviter l'assassinat. C'est sale, inutile et anachronique. Vous faites beaucoup plus de mal à un rentier en perçant son coffre qu'en lui perçant le ventre. Alors, évidemment, avec ma voix, c'est pas terrible, mais il faut imaginer la voix de Julien Guillaumard que vous venez d'entendre, qui est un acteur exceptionnel. Enfin, grand acteur de théâtre, sous-employé au cinéma. Et ce film a un rapport avec le Blueberry, parce que j'y ai mis un personnage qui joue dans le film, enfin un acteur qui joue dans le film, et je l'ai mis costumé tel qu'il est dans le film. Et on le voit assez rarement comme ça, c'est Charles Denner. J'ai une grande passion pour Charles Denner.
Ah oui, partagé. Oui.
Et dans le film, il joue un voleur, lui aussi, qui c'est un roman anarchiste du début du siècle.
C'est le roman de Georges Darrien.
Et qui est un roman extrêmement dur et avec un humour noir et une grande ironie. Et à un moment, il rencontre un autre grand voleur qui s'appelle Canonnier et qui est joué par Charles Denner, qui a mis une perruque qui aile de corbeau avec les cheveux gominés comme ça. Il a une petite moustache et un chapeau melon. Et j'ai repris ce personnage tel quel dans Blueberry. Et ce film est un film qui me poursuit depuis l'adolescence et dans lequel Belmondo n'a jamais joué un rôle comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il joue un rôle d'un personnage amer, comme vous l'avez décrit à cause de son histoire. Oui. Il est amer, il est dur, il est froid. Il est même pas tellement sympathique.
Et le film est très sec. Il y a un humour noir, notamment apporté par Julien Guillaumard et par un autre extraordinaire acteur de second rôle qui s'appelle Paul Le Person, qui apparaît d'ailleurs dans cette scène. Et voilà, ce film me poursuit depuis que je suis ado et à chaque fois que je le revois, j'ai des frissons. Là, tout à l'heure, j'ai eu des frissons en entendant la voix de Julien Guillaumard.
Espérons qu'il ne vous rattrape jamais. Passons à la série maintenant. Passons de Georges Randall à Joss Randall, puisque vous avez choisi Au nom de la loi, Wanted Dead or Alive en VO, avec Steve McQueen, une série diffusée entre 58 et 61. Charline, nous revoici, tiens, dans l'univers western, une série culte pour tous les vieux garçons. Et pour vous ?
Bon, non, j'étais bien trop jeune pour les aventures de Josh Randall, chasseur de primes dans le Far West.
Au nom de la loi, vous faites ce choix pour celui qu'on surnommait le roi du cool, Steve McQueen.
Alors, pardonnez-moi, mais si je peux me permettre une remarque, la musique que vous avez mise là, a un rapport avec Steve McQueen, mais pas avec Au nom de la loi.
C'est pas le générique de Au nom de la loi ?
Mais du tout, c'est les sept mercenaires. Mais cela dit, il y a un lien.
Ah non, alors, Ghislain Fontana.
Non,
notre réalisateur, c'est encore lui.
Pardonnez-moi d'avoir fait le geek qui critique.
Attendez, j'enlève mon casque parce que j'essaie de me souvenir du générique, vous avez tout à fait raison. De nom de la loi. Non, il vous revient, vous ?
C'est difficile, mais je pourrais vous le chanter, mais...
Bon, ça va revenir. Et puis je balade sous la véranda avec son colt et puis il arrache la fiche.
Non, il a une carabine à canoncier.
Oui.
Vous pouvez rechanter en duo le... C'était Renaud qui chantait le générique ?
Oh là là. Bon, je vous en prie. Christophe, donc... Autant pour nous, sept mercenaires, ok. Donc pourquoi ?
Mais il y avait un lien avec les sept mercenaires parce qu'il a voulu quitter la série pour pas être emprisonné d'être un acteur de télé. Généralement, c'est le problème des acteurs de télé, c'est que ils n'arrivent pas à aller au cinéma, ils restent coincés dans leur rôle. Et lui, c'est ce qui lui a permis de le lancer, Steve McQueen. Et il a feint un accident en Jaguar. En se plantant dans un poteau, il a abîmé sa Jaguar et il s'est vaguement ouvert l'arcade sourcilière. Enfin, je sais pas, il s'est tapé contre son pare-brise. Il a dit, je suis blessé, je peux pas, là, on est obligé d'arrêter le tournage. Et il en a profité pour aller sur le tournage de John Sturges, où il a tourné Les Sept Mercenaires.
Il est
devenu une star et il a accédé au cinéma parce qu'il en avait marre de tourner dans le monde de la loi.
Alors attendez, Ghislain Fontanus, qui est en train de se flageller, là, en régie avec des lanières cloutées, me dit qu'il a peut-être retrouvé le vrai générique. Voilà, ouais, on y est. Ça va, Ghislain ? On vous garde pour la fin de la semaine. Merci. Bon, donc cette série vous a là, marqué au fer rouge aussi.
Cette série m'a marqué au fer rouge parce que... D'abord, c'est une série qui était très cheap. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. C'était en noir et blanc. C'était un format très court. C'était 20-25 minutes. Mais j'ai retrouvé, parce que je me suis acheté l'intégrale un jour, parce que voilà, je me suis dit, tiens, j'aimais ça quand j'étais petit garçon. J'aime ça aussi quand je suis grand. J'ai envie de le revoir. Et je me suis rendu compte que dedans, il y a des pépites de scénarios, de poésie. C'est assez noir. C'est très mélancolique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a souvent été dit, mais ça a servi de laboratoire pour Steve McQueen pour élaborer son jeu qui est très étrange. Steve McQueen qui est tout le temps en train de... Il est constamment en mouvement, alors soit il est dans une forme de cabotinage, soit au contraire dans quelque chose d'extrêmement retenu. Et on voit à quel point il est cool, hein, parce que il est... On sent l'aspect félin et physique. Et en même temps, il joue un personnage qui a une certaine humilité, c'est-à-dire que par moments, il a froid, il a peur, et il le dit. C'est pas un matamor, c'est pas John Wayne, en fait. C'est une autre forme de charisme.
Bon, très bien. Alors, il me manque juste pour cette pop-liste de Christophe Blin, une musique, une chanson, et cette chanson, c'est celle-ci. She was a princess, queen of the highway. Sign in the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster. Queen of the Highway, des Doors, sorti en 70 sur l'album Morrison Hotel. Alors, plutôt ce morceau, donc, que dit à ton capitaine de France Gall, votre autre passion?
J'aime beaucoup France Gall.
Oui, je sais.
Ton capitaine. Oui, on vous a informé là-dessus. Il me rappelle avoir passé dans une émission un jour à France Inter. Cette chanson... Mais c'est une chanson que oui, elle est culte. Donc, c'est très dur. On vous demanderait de choisir votre chanson culte. C'est impossible. Vous en avez 1500, des millions. Mais si celle-ci, quand même particulièrement, parce qu'elle se dégage, son énergie, son côté... on est sur la route. Et moi, je suis né dans un road movie. Je suis né entre Easy Rider et Vanishing Point. Exactement, c'est 69-71, je suis dans 70, cette chanson. Ça aurait pu être une chanson d'un road movie. D'ailleurs, j'ai hésité avec une autre qui était Kyrie Eleison des Electric Prunes. Vous connaissez Kyrie Eleison des Electric Prunes?
Je ne l'ai pas écouté depuis très 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 longtemps. Alors,
c'est une chanson d'Easy Rider. C'est une chanson qui est je ne peux pas vous la chanter. C'est une chanson qui est dans Easy Rider. Et pour moi, cette chanson de Queen of the Highway, le titre est éloquent. Si on doit
la
traduire,
reine de l'autoroute,
la reine de l'autoroute, enfin la reine de la route, parce que l'Highway, c'est la reine de la route, disons. Et le texte poétique est très évocateur de ce que sont les road movies de cette époque-là. Et pour moi, le road movie, c'est la vie. Je me sens bien dès que j'imagine que je suis dans un désert, en Californie, ou dans le Nevada, ou dans l'Utah, je ne sais pas.
C'est ce que vous écoutiez en dessinant Blueberry?
C'est une des choses que je pouvais écouter en dessinant Blueberry quand j'avais besoin de me redonner.
Mais je vous arrête là parce que le Nevada, le désert, nous allons nous y rendre dans quelques instants pour parler de Blueberry avec vous, Christophe Blain. Alors je résume, votre popliste, l'école des filles ou la philosophie des dames, le voleur au nom de la loi, enfin les sept mercenaires, version Ghislain Fontanus, et puis les Doors. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Je n'ai jamais pensé bassement.
Vous n'êtes pas un bourgeois. Les aveugles.
Belle et curieuse demoiselle, voici l'école de votre sagesse et le recueil des principales choses que vous devez savoir pour contenter vos maris.
Que voulez-vous? Eux aussi cherchent une certitude. Ils s'accrochent aux apparences.
Vous vous traversez les murs.
Sept mercenaires, c'est au moins ce qu'il faut pour apprendre la vie à Ghislain Fontanus. Ben voilà, c'est un petit résumé de ce qui traîne dans la tête de Christophe Blain.
Ah oui,
ça
oui.
Vous va, ça vous convient?
Ah non, oui, c'est que vous êtes complètement dans ma tête.
Alors très bien, on continue. Christophe Blain, chargez votre colt, car dans la suite de Pop, on va parler de l'iconique personnage Blueberry, le lieutenant Blueberry. Mais avant ça, on écoute comme chaque semaine un petit Johnny Montreuil, So Long Dollar.
Mardi à quatre pattes en garde à vue à Reims. Mercredi j'ai déjà hâte de revoir mes vertes années. Jeudi on tord la rate, puis je suis tanné. Mardi, putain, ça caille dans ces trois pauvres mètres carrés. Mercredi, ah, j'explose la tête au premier venu. Oh. Jeudi soir sur la paille, au mitard, on m'avait prévenu. Venu me voir. Tant pis pour elle, c'est crevard, mon privé de parloir. J'ai crié de l'autre côté, je ne sais même plus quel jour on est. Crié de l'autre côté, brûlé toutes ces années. J'ai crié de l'autre côté, brûlé toutes ces années.
déchaîne, j'y déchaîne. À mes pieds, je les traîne. J'ai la tôle, et les rats qui me frôlent. J'ai la haine de ces chaînes. Qu'à mes pieds, je traîne. J'ai la tôle, tatoué sur mes épaules. J'y déchaîne, j'y déchaîne. À mes pieds, je les traîne. J'ai la tôle, et les rats qui me frôlent. J'ai la haine de ces chaînes. Qu'à mes pieds,
Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune
et Charline Roux. Hill, BD et Weed sont les premiers résultats qui tombent lorsque je tape Blueberry sur Google. Vous savez qu'il existait de la Weed Blueberry, Christophe Blain ? Vous pouvez dire non.
Non, je ne savais pas, je me précipitais dessus.
Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Weed, mais de BD, car vous venez nous présenter ce nouveau Blueberry, un personnage que je définissais plutôt dans l'émission comme impertinent, râleur, super décontracté devant l'existence et l'adversité, dont la dégaine et la nonchalance ont servi de modèle à bon nombre de lecteurs de ma génération, fin de l'autocitation. Charline, c'est la 29e aventure du célèbre lieutenant, ça s'appelle Amertume Apache. Pourquoi est-il amer, l'Apache ?
Parce que sa femme et sa fille ont été assassinées. Le lieutenant Blueberry a assisté au meurtre de deux femmes de la tribu Apache tuées par trois jeunes blancs. Et bien, donc Amertume, c'est son nom. Étant un guerrier, la situation pourrait bien s'embraser.
Alors Blueberry est une série de BD initialement créée par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud. Une BD que vous avez découverte à l'âge de 11 ans. Et donc vous connaissiez les pages par cœur, Christophe Blain. Pour vous, Giraud était le dessinateur des dessinateurs, votre rockstar à vous.
Oui, c'est pas qu'à moi, je pense que il est considéré comme le dieu des dessinateurs par les dessinateurs qui ne s'en remettent pas, et ce qui est d'ailleurs un peu problématique, c'est-à-dire qu'il les tue tous. Non, mais c'est Bertrand Tavernier un jour
aussi bien Giraud que Mébius.
Aussi, bah oui, moi j'ai découvert les deux en même temps. Mais d'ailleurs, c'est Bertrand Tavernier un jour m'avait dit à propos de Sergio Leone et de Jean-Pierre Melville, il disait c'est des gens qui ont fait beaucoup de mal au cinéma parce que ils avaient un style qui était tellement fort, une manière qui était tellement forte, qu'il y a eu ensuite des armées de réalisateurs qui n'ont pas pu le dépasser, qui essayaient d'en copier que la surface. Ouais. Et Jean Giraud a un côté un petit peu comme ça, c'est-à-dire que il a tellement été écrasant dans des tas de domaines, et il a une manière, parce que la bande dessinée pousse à être maniériste, puisqu'il faut trouver une écriture, on a tendance à répéter. Et sa manière est extrêmement forte. Et en plus, elle a changé, elle évolue d'une page à l'autre, elle évolue d'une année à l'autre, elle évolue tout au long de sa vie. Et à chaque évolution, elle est définitive, c'est-à-dire qu'elle écrase tout.
Sur son passage.
Exactement.
Dans les critiques, alors élogieuses, faut-il le préciser, d'Amertume Apache, l'expression qui revient le plus souvent, c'est réinterpréter sans trahir. Alors comment est-ce qu'on opère ce dosage ? Parce qu'on peut partir du principe qu'une trahison, même minime, est un peu obligatoire dans ce genre de situation.
Mais je sais pas comment j'ai fait, parce que c'est de l'instinct. Ni Johan ni moi ne le savons comment nous avons fait.
Johan Sfar qui peut signer Johan Sfar. Ce Blueberry.
Johan Sfar, vieux complice. On l'a fait parce qu'on y a cru. Enfin, on le dit souvent, Johan et moi, mais que c'est un acte d'amour, parce que nous sommes des grands sentimentaux. Et c'est un acte d'amour vis-à-vis des créateurs de Blueberry, Jean-Michel Charlier et Jean Giraud. C'est un acte d'amour vis-à-vis du personnage, parce que, particulièrement moi, parce que moi j'ai été marqué. C'est un choc esthétique, comme vous. Vous l'avez fait un petit peu avant moi. Vous avez dit 10 ans, moi j'avais 11 ans. Oui, et un acte d'amour entre Johan et moi aussi, parce que je ne peux travailler qu'avec des gens avec qui je suis en très grande proximité.
Charline aussi.
Oui.
Je dessine moins bien, vous noterez.
C'est une émission d'amour. Nous sommes là pour parler d'amour.
Le moment qu'on aimait.
Non. C'est un truc dans lequel on croit. C'est un album qui est très personnel. C'est-à-dire que c'est le paradoxe. C'est pas un album qui, c'est pas un de mes personnages. Je l'ai pas créé. C'est pas un personnage de Johan. On était deux. C'est pas
oui, voilà. Et puis, il a été redessiné aussi. Il y a eu des
voilà. Il a déjà été réinterprété par d'autres dessinateurs, d'autres scénaristes.
Et justement, Christophe, votre Blueberry à vous l'avez trouvé du premier coup ou vous avez longtemps tâtonné?
Non. J'ai tâtonné. J'ai tâtonné dans le noir. On a même écrit une première histoire, Johan et moi. On a testé aussi notre méthode de travail. On avait écrit une première histoire tous les deux. Johan avait écrit une première histoire, je l'avais traitée. Puis j'étais revenu le voir avec 4 mois après, avec une trentaine de pages. On l'a lu ensemble. Il n'y a que trois personnes qui l'ont lu. On n'a pas voulu qu'elle sorte.
Et vous avez tout jeté ?
On a tout jeté.
Je peux récupérer le...
Mais vous seriez déçus si on l'a mis de côté, c'est qu'elle n'est pas bien. Non, non, mais il y avait quelques passages qui étaient intéressants. Il y a des choses qu'on a gardées, évidemment. On a gardé certains éléments de l'histoire. Mais on a dit qu'il faut qu'on fasse beaucoup mieux. On avait évidemment énormément de pression. On avait énormément de pression vis-à-vis de l'extérieur, ça peut se comprendre, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. Et moi, vis-à-vis de le vieux fan de Blueberry que je craignais le plus, c'était moi.
C'était vous-même. Ouais.
Vous avez déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, c'est le cheveu qui fait le Blueberry. Fin de citation.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, Blueberry a changé énormément de tête. Enfin, il y a un moment, il s'est fixé.
Il change au 12e épisode, hein, quand il a un gros nez d'abord. Et puis
voilà, c'est ça. Dans les premiers temps, il était inspiré par Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo, qui est également une idole et un modèle.
Et qu'on retrouve dans votre Blueberry à vous.
Ben moi, je l'ai plutôt fait sur le moment où il est fixé. Donc, plutôt le Blueberry plus tardif des années 80.
Oui, mais il y a des petites réminiscences belmondiennes. Oui.
Instinctivement, enfin, mon intuition a fait que... Parce que le premier Blueberry que j'ai voulu travailler était justement plus vintage. Mais on le reconnaissait moins. Il fallait un Blueberry immédiatement emblématique. On ne peut pas jouer avec un personnage qui a une identité comme ça. Donc, il fallait que ce soit lui. Et en fait, il y a un truc qui est particulier. Enfin, ce qui caractérise le plus Blueberry, c'est... plus que son nez, c'est sa chevelure, parce qu'il a une chevelure impossible. Et d'ailleurs, Charlier Giraud, dans un album qui était déjà très avancé, ça devait être 10, je ne sais plus à combien on en était, qui s'appelait Le Hors-la-Loi, l'avait complètement rasé parce qu'il était dans un pénitencier. Et je me rappelle, gamin, quand j'avais découvert ça, que ça a été un choc terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le reconnais plus. J'étais scandalisé. Et à partir de ce moment-là, je me suis, adulte, et en créant mes propres personnages, je me suis dit, ça c'était génial, je vais aussi... abîmer mes personnages en leur cassant le nez, en les faisant grossir, maigrir, en leur mettant une barbe, en leur enlevant la barbe, etc. En leur faisant changer les caractéristiques, théoriquement, un personnage de bande dessinée ne change pas. Blueberry, lui, change, mais tout de même, la plupart du temps, il est mal rasé et il a une tignasse incroyable et son nez cassé.
Alors, information quand même capitale, vous avez reçu l'aval de Jean Giraud, de son vivant, évidemment.
Alors, Jean Giraud m'avait proposé, on s'était rencontrés à plusieurs reprises, et il m'avait proposé de faire un essai dans le magazine Pilote, de quelques pages. À l'époque, il voulait développer une série qui s'appelait Blueberry 1900, qui racontait l'histoire d'un Blueberry quinca, qui voyageait dans l'Est. Et il m'avait proposé de faire des pages d'essai dans Pilote. Et il n'a pas donné suite. Et je suis resté comme ça, je me suis dit, mais je vais quand même faire un western, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis forcé un peu, et je me suis dit, mais non, mais quand même, c'est pas possible, il faut que j'aime tellement le western, j'en avais déjà fait avec mon complice David Bochard, mais il fallait que j'écrive le mien, et j'ai écrit Gus. C'est grâce à Jean Giraud qui ne m'a pas fait faire des pages d'essai de Blueberry, j'ai écrit Gus.
On est loin de Blueberry avec Gus quand même. Enfin, il y a des points communs.
Dans Gus, je cite très souvent Blueberry.
Oui, mais graphiquement...
Ah oui, non, c'est complètement différent. Rien à voir.
Pour en revenir à Amertume Apache, combien de temps vous avez pris cette mission Blueberry en entier? Ça a été un travail de très longue année, Alain?
C'était...
Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça.
Oui, oui. C'était très long. C'était très long. J'ai puisé au fond de mes ressources, mes dernières ressources pour le faire. Non, il y avait une énorme pression. J'ai beaucoup travaillé. J'ai complètement changé. J'ai énormément travaillé mon style. Joanne et moi avons passé des longs moments d'écriture. Joanne a réécrit plusieurs fois. J'étais très sévère avec lui. Je l'ai torturé.
Il le mérite.
Non, mais il a écrit. Il a écrit des choses super. On a réécrit, on a réinterprété. On a beaucoup écrit. J'ai beaucoup dessiné. J'ai beaucoup refait mes pages. Oui, c'est un travail assez profond.
Esthétiquement, Christophe Blain, je sais que vous vous êtes inspiré de La Vengeance aux deux visages, le seul western mis en scène par Marlon Brando.
Hello, Dan.
Hello, kid. I knew you'd be coming sooner or later. I'm glad you come. Because there's something I've been wanting to tell you for a long, long time. How about a drink?
Alors, info ou un tox?
Alors... ce que vous venez de dire, là vous êtes très très pointu.
Oui, je sais. On me le reproche parfois.
Parce que je ne me suis pas inspiré de ce film en tant que tel, mais je me suis inspiré dans une scène particulière du Blueberry où il y a c'est un western très étrange, un western masochiste, voire sadomasochiste, qui raconte l'histoire de deux amis qui sont des deux côtés de la Loire. Ils ont d'abord été gangsters ensemble et ensuite il y en a un qui devient shérif, truc assez classique.
J'ai compris des deux côtés de la Loire.
La fatigue, oui, sans doute, peut-être, également. Sans...
Pardon, excusez-moi.
Gien, Sully-sur-Loire, je connais bien.
Je vous en prie, continuez.
Alors, vous m'avez perturbé.
Oui, non, non, voilà, bah, oui, non, voilà. Stade,
donc, avec Karl Malden ouais. Et Marlon Brando, ouais. Et il se retrouve à un moment, il y a une scène absolument terrible où Karl Malden, devenu shérif, attache Marlon Brando à
un poteau
pour, sur lequel on met ses chevaux quand on est au saloon, et il le fouette violemment en public. Et je me suis inspiré de cette scène pour dessiner. Il y a une scène de deux personnages qui se font fouetter en public. Et effectivement, ce film a servi de matière et de documentation pour dessiner cette scène. Mais c'est une scène très pointue. Mais j'aime ce film très étrange.
Je ne sais pas si je dois vous en féliciter ou vous en blâmer. En tous les cas, le premier tome d'une aventure du lieutenant Blueberry Amartume Apache s'est édité chez Dargo. C'est plus que recommandé. Mais alors, comment trouver les mots? C'est beaucoup plus que recommandé. Mais comment dire? C'est infiniment recommandé par Pop. C'est un pur chef-d'œuvre. Voilà, je l'ai dit. Allez, et j'en profite pour annoncer que vous êtes en lice pour le Fauve dehors du prochain festival d'Angoulême. Et je vous dis un gros... Christophe Blanc.
Un gros, pardon.
Bah, ça y est, je l'ai dit.
Ah.
Vous savez faire ça? Ah, bien. C'est pour lancer les Pop News.
Et quand il y a un truc bizarre dans le voisinage, qu'est-ce qu'on appelle? Toujours rêvé de faire ça. La ligne téléphonique vient d'être remise en service pour SOS Fantôme, l'héritage par Jason Reitman avec Paul Rudd dans le rôle d'un professeur qui accueille un enfant un peu particulier.
J'ai trouvé ça dans mon salon.
Waouh, c'est une superbe copie.
Une copie de quoi?
D'un piège à fantôme. On n'a pas signalé de fantôme depuis 30 ans. New York, dans les années 80, c'était comme The Walking Dead. Ton père t'en a jamais parlé?
J'ai que ma mère. Mon grand-père est mort. Pour ma mère, on est là pour trier tous les vieux trucs qu'il a laissés.
Attends. Mais qui es-tu?
Je vous laisse deviner qui peut bien être le grand-père. Et soit ce fantôme l'héritage avec des petits nouveaux, mais pas que, y a Bill Murray. Ça sortira le 19 août.
Un très beau mash-up à vous faire écouter. Aujourd'hui, il est signé William Maranchi, qui s'est fait une spécialité sur sa chaîne YouTube. Et sans rien vous dévoiler, je vous laisse deviner. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Maria Carey, croisée avec Radiohead, il fallait oser. William Maranchi l'a fait. Je pense qu'on reviendra de temps en temps faire un tour sur son compte YouTube.
La belle histoire du jour tient en peu de signes, puisque c'est sur Twitter qu'on peut la lire sur le compte de Rod Blackhurst, qui est réalisateur aujourd'hui, qui a donc écrit cette toute petite anecdote, ouvrez les guillemets. En 92, j'avais 12 ans, mon père et moi étions à l'aéroport de Newark, j'ai vu Joe Pesci et je l'ai reconnu. À cause de « Maman, j'ai raté l'avion », je suis allée vers lui pour lui demander un autographe. Joe m'a demandé qui était mon acteur préféré, j'ai répondu que c'était lui. Il m'a tendu $100 et a dit « C'est la bonne réponse, gamin ». Fin de l'histoire.
Okay, you hear little girl, Frankie? Hear little girl, Ace? Is that a little fucking girl? What happened to the fucking tough guy? Told my friend, stick it up his fucking ass.
Huh? Santé. Pop. Antoine de Cône.
Yes, it's me.
Joe Pesci.
Bah, évidemment, bravo.
C'est pas Joe.
Christophe Blain. Avant de recevoir James Elegance dans la suite de Pop, eh bien, je vous propose de l'écouter avec ce titre, The Only One.
Gone with the sun. My baby's gone. Gone with the sun. The clouds are whipping in my eyes. The clouds are whipping in my eyes. I found out the only not that one. My shoes are sinking in the mud. My shoes are thinking in the mud. Am I falling? I found out the only one. I found out the only one. I'm not that one. Jersey comes back. Comes back in my mind. Could I forget? I found out the only one. I found out the only one. I found out.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Est-ce que vous venez d'entendre, c'était The Only One, c'est extrait du premier album solo de James Elegance qui vient de faire son entrée dans le studio où nous sommes toujours en compagnie de Christophe Blin. Bonjour Mr. Elegance.
Hello.
Hello. Oh, I hope you speak French.
Yes, a little bit.
A little bit, ça tombe bien, comme
with
moi.
With no accent.
James Elegance, ça sonne western, mais à l'état civil, vous vous appelez Yann Chehu et vous venez de Dinard.
Exactement.
D'accord, alors James Elegance, c'est votre avatar parti
c'est ça,
à la conquête
c'est une partie
de la planète pop.
C'est une partie de moi qui est partie à la conquête de la planète rock.
C'est votre double.
C'est mon double.
En même temps, Elegance, ça sonne un peu Braise, hein, si je peux me...
Oui, Braise du côté de Munich.
Ouais. Je tentais, c'est jamais.
Et vous voici en solo, après deux expériences de groupe avec Success et Ruben, hein, du rock et de l'électro, et en solo avec un rock très Americana. En solo, ça veut dire quoi? Enfin libre de vos mouvements?
Non, c'est pas ça, c'est que on avait terminé Success au bout de 10 ans et j'ai sorti
Alors Success, c'était un groupe qui avait un succès partout sauf en France.
C'est ça, on était très très populaire en Asie, on faisait des 50 000 personnes et on faisait du 50 ici à la fin.
Incroyable. Bon, enfin donc l'histoire Success s'est arrêtée, ensuite cette petite période électro-bizarre.
Ouais.
Et vous voilà donc en solo. Alors, initialement, à la question d'où venez-vous, vous répondiez Kentucket.
Kentucket, oui.
Kentucket, le nom d'une ville imaginaire entre Memphis et Detroit. Et c'est là, précisément, que vous situez votre musique.
C'est ça. Moi, ma musique, elle vient de la Highway 61. C'est vraiment ça. C'est le passage qui vient du delta du Mississippi et les esclaves qui, petit à petit, sont libres et remontent et vont travailler dans les usines à Détroit. Voilà. Et donc, toute cette musique, c'est l'amplification du blues. Et puis, on a la country, on a la soul. Tout est là. Donc, moi, je suis breton, mais j'y peux rien.
Ah non, vous n'y pouvez rien. Et nous non plus. Mais une musique qui pourrait presque servir de bande-son à Blueberry.
Ah ben, complètement.
Hein. On est pas très loin, là. Géographiquement, en tout cas.
On est très, très proche, même.
Bon. Très bien. Enfin, là, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, en plus.
Jamais aussi proche.
James Elegance, vous avez eu une vie avant la scène. Vous étiez libraire, mais vous avez voulu, je vous cite, un tout plaqué pour vous consacrer à votre passion, comme dirait Evelyne Thomas dans C'est mon choix. Et un soir, au Festival des Vieilles Charrues, vous avez réussi à chanter sur scène avec Iggy Pop.
Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez fait avec un stratagème aussi dingue.
Oui, racontez-nous, James Elegance.
La seule métaphore possible, c'est Moïse. C'est d'un seul coup, j'ai eu une illumination. C'était la huitième fois que je voyais sur scène.
Et la huitième.
Ouais, c'est vrai que c'était là, c'était le moment
donc
pour aller chanter avec
Iggy
lui.
Vous aimez bien Iggy Pop, en fait.
Oui, j'aime bien. Mm-hmm. Et tout le public des Vieilles Charrues, 50 000 personnes, s'est écarté. J'ai traversé et je suis monté sur scène. Et juste avant de monter, la sécu me prend le pied. Je l'ai regardé. Je me dis non, là, c'est trop tard. Et Iggy s'est retourné, il m'a donné son micro. J'ai chanté No Fun. Avec les Stooges.
Mais il vous a pas obligé à enlever vos vêtements?
Ah, j'en avais plus déjà. J'ai
gardé toute intégrité physique, tout, d'accord.
Okay. Et il y avait Mike Watt à la basse qui joue sur mon disque.
D'accord. C'est fou. Mais pas le batteur alors.
Non, parce que le batteur,
qui a
c'était
produit votre album.
C'était Ronald, c'était Scott Ashton à l'époque.
Oui, d'accord.
Qui était à la,
d'accord.
La batterie.
Des
Stooges.
Des Stooges originaux, oui.
Okay. Antoine le disait en début d'émission, vous êtes le seul Français à avoir enregistré votre album au mythique Ranch de la Luna, oui. Le studio dans lequel sont passés les Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Nick Cave, Arctic Monkeys, Iggy Pop. Par quel concours de circonstances
Arctic
vous êtes
retrouvé? Arctic Monkeys.
Bien sûr, Humbug.
Ah
vous
oui.
Vous enregistrez Humbug là-bas. Par quel concours de circonstances vous êtes-vous retrouvé dans cet endroit absolument mythique?
Quand Toby Dammit, le producteur, a accepté de faire le disque, c'était soit à Berlin, soit en Californie. Donc,
étonnamment,
dit,
vous avez
en février,
dit,
vaut mieux quand même être en Californie. Et c'est pas une blague, le 24 décembre, il m'envoie un message, il fait, alors pour le studio, j'ai trouvé, ce sera le Rancho de la Luna, et le bassiste, j'ai pensé à Mike Watt, ça va te plaire. Je me suis garé pour ne renverser personne.
Ça participe du même conte de fées que les vieilles charrues, la foule qui s'ouvre, vous rejoignez Guy, bah vous voilà après au studio, la Luna. Enfin bon, voilà.
J'étais dans sa chambre aussi, ils m'ont donné sa chambre.
Ça, je veux pas le savoir. Alors, dans un instant, James Elegance, vous serez en live sur la scène de Pop 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 pour nous interpréter Lasso the Moon, cet extrait de votre premier album solo. Alors, je sais que le second est déjà été écrit, que vous êtes actuellement en train de travailler sur le troisième. N'arrêtez donc jamais.
Ah non, le temps est compté.
Le temps est compté. Non, mais vous prenez beaucoup d'avance. Regardez Christophe Blin, lui. Je lui demande quand arrive le deuxième Blueberry. Il me dit, on est dessus.
Non, je sais pas. C'est une période. C'est Pierre Soulages qui disait qu'on avait des périodes de création dans sa vie qui duraient que quelques années.
Ouais.
Et il fallait pas les rater. Donc là, je suis dedans, donc je veux pas les rater.
Mmh. Donc, pourquoi je suis à fond. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est déclenché d'un seul coup?
Il y a un déblocage qui s'est fait au Rancho de la Luna. Ouais. C'est Mike Watt qui m'a pris dans ses bras pour me parler de mes textes. Mmh. Et c'est bien la première fois ou presque qu'on me parlait de mes textes par un Américain. Mmh. Et en fait, il y a une connexion qui s'est faite. Je pense que ce que j'appelle les prolos du rock, c'est la classe ouvrière du rock. Et on retrouve ça. Mmh. On s'est senti très très proche.
Mais si c'est pas indiscret, il vous a dit quoi sur vos textes qui vous est déclenché à ce point?
C'est que c'était juste.
Ouais.
C'était simple et juste.
Oui, donc c'était plus de l'encouragement que d'un avis.
Il en pleurait. Hein. Il pleurait sur Hideaway. Mm. Mm. C'était quelque chose qui le touchait vraiment. Voilà.
Oui. La rumeur prétend, James Elegance, que vous aimez vous mettre à nu, hein, dans tous les sens du terme, y compris sur scène. C'est quoi? C'est une émulation hip hop?
Je pense que je suis un exhibitionniste et que j'ai trouvé ce biais-là, mais je m'arrête toujours avant que ça dégénère. Ben pour les autres, hein, oui. Pas pour moi, ça dégénère souvent. Mais oui, après c'est une forme de père spirituel, mais c'est pas une copie. Quand je faisais Ruben, par exemple, c'était pas James Elegance qui montait sur scène, c'était évident. Et quand j'ai fait ce projet solo, en mettant la première fois les pieds sur scène, je savais que c'était pas Ian Chéhu. Là, c'était mon doppelganger qui arrivait et tous aux abris, ou presque.
En 2020, James Elegance, vous avez le projet de passer de la côte ouest, Dinard, donc à la West Coast, avec une série de concerts avec notamment Toby Dammit, l'ancien batteur d'Iggy Pop, Mike Watt, l'ex-bassiste des Stooges, et Tom Ayres, à la guitare. Vous pensiez passer un jour de la côte ouest à la West Coast?
Pas du tout, j'étais même jamais allé aux États-Unis avant d'aller enregistrer ce disque, mais c'est assez incroyable. Et c'est eux qui ont envie de jouer ce disque en fait en live. Donc on va tenter le coup.
Mais ce qui est très étonnant avec vous, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on pourrait inventer en termes de légende autour de James Elegance serait forcément moins fort que ce que vous venez de raconter déjà, en fait, que celle que vous avez
créée. C'est ça, les vrais rockstars.
Mais non, mais c'est quoi? Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Vaut mieux inventer sa légende tout seul?
Non, c'est pas vraiment une légende. En tout cas, entre être une star et une légende, je choisis largement la légende.
Ouais.
Très bien, monsieur. Écoutez, vu son John Ford. Bon, en tous les cas, ça fera peut-être l'objet d'une BD dans le futur, signé Christophe Blin. Pourquoi pas? Bon, James Elegance, dans 30 secondes, bah même tout de suite, tiens, vous serez en live sur la scène de Pop 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 pour jouer Lasso the Moon. C'est difficile d'attraper la lune ou l'assaut, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Installez-vous. Dès que vous êtes prêt, vous me faites le petit pop de départ. Et c'est parti, mon kiki. Christophe, vous êtes tout ouïe? Vous avez votre casque?
À fond.
À fond. Charline,
oui,
vous êtes prête? Ok. James, dès que vous voulez. C'est parti.
Life could be an old Capra movie.
You'll be marrying me, Judge Bailey. Throw a stone, maggot, wish. Girl, I'm rage, I would vanish. For you, all I serve the moon. For you, all I serve the moon. Life must go on, I wonder. I'm afraid to dive in water. How could Clarence get his wings? Far away would the bell ring. For you, I will answer the moon. For you, I will answer the moon.
Sur France Inter depuis la scène de Pop Pop Pop. C'est un morceau signé James Elegance et c'est extrait de son premier album solo. Merci, merci infiniment James.
Merci à vous.
Et Gaëtan à la lap steel guitare d'être venu nous rendre visite aujourd'hui dans notre studio. Mais For Only One, c'est votre premier album et il est évidemment disponible et recommandé par Pop Pop Pop, cela va sans dire. Merci Christophe Blain, le premier tome d'une aventure du lieutenant Blueberry, Amertume Apache, c'est édité chez Dargaud. Je vais pas recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Si, vous voulez?
Bah, ça faisait plaisir quelque
c'est
part.
C'est vrai, je le refais
oui,
alors.
Je crois qu'il vous aime bien.
Bon, c'est un chef-d'œuvre. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation. On lui en veut pas, hein, malgré les 7 mercenaires.
Oh bah si, quand même.
À la technique, Rémi Sistiaga et Tiffany Battistel. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production. À la programmation musicale, Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le directeur artistique de la maison Balmain, Olivier Roustin, et la réalisatrice Olivia Bonnefond. Mais avant demain...
Anissa Bonnefond.
Merci Charline. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos stage diving sur YouTube...
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 36 15 pop 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 sur Instagram et Twitter.
Ça saigne là.